Lazare, long saunier, lisait dans son bain quand la nouvelle de la Première Guerre mondiale arriva jusqu'au Chili. À cette époque, il avait pris l'habitude de feuilleter le journal français à 12 000 km de distance, dans une eau parfumée d'écorce de citron, et plus tard, lorsqu'il revint du front avec une moitié de poumon, ayant perdu deux frères dans les tranchées de la Marne, il ne put jamais réellement séparer l'odeur des agrumes de celle des obus. Ainsi commence le livre de Miguel Bonnefoy, troisième roman intitulé « Héritage » qui vient d'obtenir le Grand Prix des libraires. Ce soir, nous avons la chance de le recevoir, mais comme chaque soir, nous allons commencer en musique et ça sera Otis Redding.
These arms are mine, they are lonely, lonely and feeling blue. These arms of mine, they are yearning, yearning from wanting you, and if you would let them hold you, oh, how grateful I will be. These arms of mine, they are burning.
Que faisait votre père le dimanche de manière clandestine au bois de Vincennes en jouant au foot?
Ah oui, bravo.
Que faisait-il? Pourquoi ces matchs de foot étaient-ils clandestins, Miguel Bonnefoy?
Eh bien, ils étaient importants parce que c'était différents ex-torturés ou des militants ou des personnes qui faisaient partie de mouvements d'extrême gauche armés contre des dictatures, tantôt latino-américaines, mais il y avait également des Italiens. Et ils se retrouvaient tous à Paris à un instant dans les années 70 où la France accueillait beaucoup de réfugiés politiques. Et ils avaient décidé de prendre le bois de Vincennes pour justement créer ces espèces de petits tournois de foot où il n'y avait presque pas de maillot, où les buts étaient faits avec deux t-shirts. Il y avait une équipe sans t-shirt, une autre avec. Et tout à coup, c'est là où ils se sont rencontrés, mon père et ma mère. L'histoire est belle, elle est importante pour moi parce que je l'ai entendue toute mon enfance, comme la rencontre de mes parents. Et il se trouve que il y a à peu près 5 ou 6 ans, une dame appelée Agnès Peigne, que je salue du geste, qui est la femme de Paco Peigne, qui était le gardien de but de l'équipe, m'a envoyé une petite vidéo en me disant « Je pense voir ton père et ta mère un peu jeunes. Peut-être cette vidéo pourra t'intéresser. » Et donc moi, j'ai aujourd'hui chez moi, dans mon ordinateur, le jour de la rencontre de mes parents.
Et pourtant, dans vos trois romans, vous ne parlez jamais de foot.
Pas encore. C'est piano piano, c'est à venir peut-être. Mais petit à petit, je suis en train de préparer en train de créer quelques sentiers qui vont mener, qui convergent vers ce point qui peut être une sorte de point de bascule narratif pour pouvoir ouvrir un autre livre un peu plus personnel. Mais ceci se compose petit à petit, en posant des pierres pour pouvoir constituer un ensemble, un muret, et ensuite peut-être faire un petit royaume.
Alors, vous avez quel âge ? Vous êtes très jeune.
Alors, à ce qu'on m'a dit, j'ai 34 ans, c'est sans doute faux.
Oui, donc vous êtes très vieux, en fait.
Absolument.
Non, mais en lisant vos livres, on pourrait imaginer que vous êtes très vieux, que vous êtes un vieux monsieur, que vous avez passé votre vie dans les bibliothèques, que vous avez lu des tas d'encyclopédies historiques concernant l'histoire de l'Amérique du Sud, et que, sur le tard, vous décidez de nous transmettre votre savoir. Pas du tout.
Non, pas du tout. Au contraire.
Vous ne savez rien, mais vous racontez.
Absolument rien. Exactement. Je ne sais absolument rien. Il y a beaucoup de travail derrière, un travail de documentation, un travail de recherche. J'écoute beaucoup les gens. J'essaye de composer comme je peux, de tisser tout ce que j'ai autour de moi pour en faire un magma, pour en faire un travail comme ça par couche, et ensuite pouvoir constituer un texte. Dès la première écriture, lorsque j'écris la première phrase, lorsque je lance la première pierre, en général c'est maladroit, c'est gauche, c'est trébuchant, c'est boiteux. Il y a derrière beaucoup de travail de réécriture pour émonder, pour élaguer, pour raboter et essayer d'arriver peut-être à une molécule fondamentale de la phrase. Mais sinon, c'est essentiellement du travail, je n'ai absolument aucun talent.
Écriture fabuleuse dans tous les sens du terme, puisque vous allez déployer tout au long de ces livres, et notamment dans le dernier Héritage, tout un monde à la fois réel, puisque vous appuyez sur des preuves historiques, mais aussi sur des personnages que vous allez inventer, des personnages fantasmatiques, presque fantomatiques, et c'est dans cette lisière entre réalité et fiction que vous avez installé votre style d'écriture. Comment est-il né, Miguel Bonnefoy, ce style ?
Eh bien, il est sans doute né, comme vous dites, de ce dosage, et de cet alliage, de comme un funambule en marchant sur une corde un peu délicate et être sûr de ne tomber ni à droite ni à gauche et toujours en maintenant une sorte de barre et de discipline. Il y avait bien sûr le côté bibliographique, le côté aussi biographique et le côté fictionnel. Et j'essayais comme je pouvais avec ces trois ficelles d'en faire une sorte de tresse qui serait le livre. Si je vais raconter seulement l'histoire familiale, avec la mythologie familiale, la légende familiale, j'aurais été obligé de plier le genou devant la réalité et donc ne pas pouvoir me laisser tenter par les délices et les sirènes de la fiction. Il fallait alors que je raconte que mon père a un frère et une sœur, il fallait que je parle de ma grand-mère, il fallait que je parle de toutes les personnes qui sont des satellites autour de la famille, qui gravitent autour de la famille, et je n'aurais pas pu les mettre de côté. Cependant, si j'arrivais à intégrer un peu de fiction et donc rendre cette histoire familiale beaucoup plus romanesque, beaucoup plus onirique et beaucoup plus pittoresque, sans doute je pouvais éliminer certains personnages et en rajouter d'autres qui me donneraient un cadre narratif, qui me donneraient une structure narrative et qui me permettraient parfois de pouvoir mieux raconter la réalité. C'est-à-dire paradoxalement, parfois la fiction est plus réelle que le réel. Lorsqu'on a envie de raconter une belle scène, par exemple celle que nous sommes en train de vivre, peut-être en passant par la fiction, on peut raconter une conversation qu'on n'a pas eue, mais qui est plus fidèle, paradoxalement, à celle qu'on a eue. Et alors, les gens s'en souviennent. Il y a le très bel exemple dans le chapitre 2 de la biographie de Casanova de Stefan Zweig, dans lequel il parle du chevalier de Sengal. Et toute cette scène n'est jamais arrivée dans la vie de Casanova. Et cependant, on voit tout de suite la caractérisation du personnage, son épaisseur, ses nuances, ses passions, ses douleurs secrètes. En une seule scène qui n'a pas existé, on voit la vérité du personnage. Donc tout à coup, c'est là où on se rend compte que peut-être la fiction peut se permettre le luxe d'être plus réel que le réel.
Dans votre voix, Miguel, il y a beaucoup de passion. D'ailleurs, dans votre écriture aussi, elle est contagieuse. Il y a beaucoup d'énergie, mais il y a aussi un léger accent. Combien de langues vous ont habité depuis la petite enfance ?
Ma langue maternelle est l'espagnol, puisque je parle en espagnol avec mon père, avec ma mère. Ma mère étant vénézuélienne, elle est maracucha, de Maracay. Mon père étant chilien, santiaguino. Donc fatalement, l'espagnol a été ma première langue. Ensuite, le français, je l'ai appris au même temps, puisque je suis né en France et les 6 premières années ont été en France, donc le français et l'espagnol
se sont mélangés.
En raison
des circonstances politiques du pays de votre père, qui a été accepté par la France et qui était un réfugié politique.
Exactement, qui est arrivé dans les années 74 à peu près en France, qui a été accepté ici et qui s'est installé pendant 10 ans. Et c'est aussi où l'a rencontré ma mère, qui elle était une diplomate vénézuélienne, qui travaillait à ce moment-là à l'ambassade du Venezuela à Trocadéro, ici à Paris. Elle s'occupait d'ailleurs des bourses à Ayacucho, qui étaient des bourses en partie qui aidaient les artistes, les intellectuels.
Mais vous parlez aussi le portugais.
Eh bien, fatalement, parce que j'ai vécu longtemps à Lisbonne. Et étant fils de diplomate, on a beaucoup bougé. On a vécu longtemps à Lisbonne, donc je parle aussi le portugais. Ou falo um bocadinho de português. Et bien sûr un peu l'anglais comme tout le monde. Et là, récemment, j'ai vécu à Rome pendant un temps, et donc l'italien est une langue qui ne m'est pas étrangère.
Vous étiez à la Villa Médicis, ce qui est un honneur extraordinaire qui n'est accordé qu'à des grands artistes. Donc vous avez obtenu la bourse de la Villa Médicis, mais je crois que vous allez quitter la France pour aller vivre dans quelques jours.
Oui, je pars vivre à Berlin lundi pour une résidence qui s'appelle le DAD, le Künstlerprogramm. On me donne un appartement et des conditions réunies pour pouvoir écrire un livre dans le silence et dans la solitude allemande.
Ce bain de langue a-t-il influencé votre type d'écriture qui est très sinusoïdal, qui est très légendaire?
Oui, j'aime beaucoup la façon que vous avez de le dire. Sans doute aussi parce que ayant peut-être le baroque, la luxuriance ou l'ensemble d'autres langues, ça m'a obligé à entrer dans le français, non pas par la grande porte, mais par une petite porte, par emprunter des chemins peut-être que je n'aurais pas emprunté habituellement si la langue était complètement lexicalisée dans ma tête. Le fait de penser en une langue et le traduire aussitôt pour pouvoir faire une interview, pour pouvoir écrire, eh bien...
Vous ne pensez pas en français?
Alors, je pense en français sur certains thèmes, notamment la littérature ou le monde éditorial, puisque je l'ai connu en France. Mais lorsque je pense à la politique, par exemple, ou je pense à la mer, ou je pense à même à l'histoire familiale, eh bien aussitôt ça va me venir en espagnol. Donc sans doute dans ce syncrétisme, dans ce croisement, dans ce métissage, il y a d'un côté une fascination pour les langues, puisque fatalement on les connaît moins bien que ceux qui sont nés dedans, et aussi une admiration et une fascination. Je prends l'exemple par rapport aux étrangers qui arrivent dans un pays et qui finissent par connaître mieux la ville ou mieux le pays que ceux qui sont nés dedans, ou les religions, ceux qui sont nés dans une religion et ceux qui arrivent.
Vous êtes dans un bain de langue et vous n'êtes pas un exilé de la langue.
Alors je ne suis pas un exilé, je suis comme accueilli par la langue française, et la langue française en plus, j'ai l'impression que c'est une langue qui est très accueillante aussi. Si on pense à Desurans, si on pense à Nabokov, si on pense à Beckett, si on pense à Gary, si on pense à Semprun, eh bien ils ont facilement adopté la langue française parce que c'est une langue qui est poreuse, qui ouvre ses bras et qui se laisse aimer.
Alors, vous venez de parler de Romain Gary. Je sais que vous l'aimez beaucoup. Je vous propose de l'écouter parce qu'entre Romain Gary et vous, malgré votre jeune âge, Miguel Bonnefoy, il y a pas mal de similitudes et notamment un certain amour pour la famille. Nous allons écouter la voix de Romain Gary. C'est une archive INA du 18 janvier 1975 et je sais que vous avez fait votre mémoire sur Romain Gary, nous allons l'écouter.
Oui, on m'a beaucoup reproché d'avoir prétendu que l'amour maternel et l'action que la mère, et sûrement le père, chez moi il n'y en avait pas, exerce dans la formation d'un homme, allait très fortement dans le sens contraire de toutes les très jolies doctrines moderne où, depuis famille, je vouais de je ne sais plus qui.
Gide, je crois.
Oui, jusqu'à d'autres gens parfaitement équilibrés, ont déclaré que la famille doit être anéantie, que l'enfant doit être libéré de la famille, au fond, que l'ennemi numéro un de l'enfant, c'est le père et la mère. Je ne suis absolument pas d'accord avec cette théorie, et si je suis encore sur pied, bien que je sois assis en ce moment, si je suis devenu ce que je suis, et ça je le dis simplement sur le plan littéraire, parce que pour le reste, je ne sais pas si ce mot « faire un homme » a été couronné par une réussite parfaite. C'est une question que je ne puis résoudre moi-même, étant juge et partie, mais je sais que tout ce que je le dois à l'amour d'une femme.
Tout ce que je vis, je le dois à l'amour d'une femme.
Oui, pour lui, c'est sans doute Mina Kassev, sa mère, bien sûr, dont il a fait le plus beau sacre et le plus beau portrait dans La Promesse de l'Aube. Et bien entendu, de mon côté, peut-être par rapport à Héritage, il y a un applaudissement et un remerciement, une forme de gratitude envers la famille et envers mon père d'avoir été un personnage aussi étonnant que moi j'appelle Hilario là dans le livre. Et bien sûr que les parents derrière sont en train de pousser. Mon père écrit, et c'est un homme qui a publié 10 livres et qui encore là en août, il publie son prochain roman à Santiago, au Chili. Donc par mimétisme, par imitation, bien sûr que j'ai voulu suivre ses pas et c'est quelqu'un que j'admire et que j'aimerais lui ressembler le plus possible. Et à ma mère, une femme absolument extraordinaire qui, à côté de Mina Kassev, est une sorte de flamme ardente, ainsi et immense, et dont j'espère pouvoir lui rendre hommage dans un autre livre, peut-être plus tard.
Alors on reviendra sur l'histoire de votre père, puisque le dernier tiers de votre nouveau livre, qui vient de recevoir ce Grand Prix des libraires, se passe justement dans la période où votre père était un militant d'Allende. Mais je voudrais revenir à votre amour de la famille dont parlait Romain Gary, et pas seulement l'amour de votre mère ou de votre père. Il y a chez vous une forme d'écriture de conte, oui, presque de légende. Quelquefois, la frontière est difficile entre la réalité historique que vous allez déployer avec une certaine maestria dans la construction scénaristique des histoires de famille, mais ce sont des lignées familiales que vous nous racontez. Pourquoi ?
Oui, je ne sais pas pourquoi ça m'intéresse autant, cette épigénétique ou cet atavisme, ce je ne sais quoi qui peut rester de génération en génération et qui fait que, quelque part, ceux qui ne peuvent se souvenir de leur passé, comme dit Sainte Ayane, sont condamnés à le répéter.
Ça, c'est ce qu'il y a comme exergue de votre livre Héritage.
Exactement, je trouve ça vraiment fascinant.
C'est d'ailleurs une phrase assez profonde. Comment l'entendez-vous, cette phrase-là ?
Eh bien, je l'entends dans cette idée de on est d'une certaine manière des personnages, non seulement une espèce fabulatrice, et comme disait Nancy Houston, mais également quelque chose d'oraculaire, c'est-à-dire qu'on porte à l'intérieur une forme de destinée, non pas un destin chrétien ou toutes ces choses, mais un ananke, comme disaient les Grecs, ou un fatum, c'est-à-dire qu'il y a un je ne sais quoi qui est déjà calqué, qui est déjà été aboli et qui est comme lancé, projeté dans l'avenir. Et je pense que lorsqu'on regarde en arrière, ou lorsque je me suis intéressé à la famille des Bonnefoy, je me suis rendu compte qu'on
était
une vieille
longue...
Attendez,
vous dites pas Bonnefoy dans Héritage. Jamais le nom n'est donné, hein.
Absolument.
Donc c'est un scoop, là, ce soir.
Peut-être.
C'est donc l'histoire de votre propre famille depuis les débuts du 19e siècle.
Exactement, en partie. Et il semblerait que le plus vieux, le plus ancien de tous les Bonnefoy, qui s'appelait Claude Georges Bonnefoy, était tavernier et à la crise du phylloxéra serait parti du Jura en prenant un navire en fer pour traverser l'Atlantique et arriver
avec
au Chili.
Un cep de vigne.
Avec un cep de vigne
dans son sac à dos.
Dans le sac à dos, exactement. Et il arrive à Valparaíso, il arrive à Santiago et à Santiago, il rentre dans cette communauté de Français au Chili. Moi, je me suis intéressé bien sûr à cette migration, à ce espèce de premier exil de cet homme qui part avec une vigne, qui déracine une vigne pour la replanter à 12 000 km de distance.
Mais ce qui est une métaphore dans tous les sens du terme.
Absolument une métaphore. Et puis ensuite, pour s'intéresser à l'histoire de ces Français au Chili, il y a toute une documentation très belle, et je pense à une thèse extraordinaire d'un homme appelé Jean-Pierre Blampin, qui a écrit un livre qui s'appelle Les Français au Chili, et c'est 350 pages dans laquelle il reprend, depuis presque le XVIIe siècle jusqu'à aujourd'hui, comment ont vécu les Français au Chili et comment ils ont recréé cette petite France à l'étranger.
Moi qui croyais que vous aviez tout inventé, Miguel.
Alors je suis vraiment désolé. J'ai bon espoir pour le prochain livre d'inventer davantage.
En fait, le romanesque était déjà dans votre propre histoire.
Eh bien, est-ce que toutes les histoires ne sont pas romanesques ? Est-ce que finalement toutes les naissances n'ont pas quelque chose d'accidentel et de volcanique ? Eh bien, moi je me suis accoudé, je me suis épaulé à cette histoire familiale. Je l'ai ensuite rajouté, je l'ai raccommodé, rafistolé avec l'histoire aussi avec un H majuscule pour essayer de ajouter, de lui donner de l'épaisseur, de lui donner de la chair et ensuite pouvoir voir comment je construisais cette affaire. Donc bien sûr qu'il y a une fascination pour la famille puisque dans toutes les familles il y a des histoires fabuleuses. Mais je pense que si le livre ne fait qu'être le reflet du passé d'une famille, ça finit par être peut-être un peu désordonné, avec des fils qui partent partout, d'une façon peut-être comme un sort de grand kaléidoscope avec beaucoup de portraits différents. Je pense que la fiction doit être là pour brider un petit peu cette réalité et essayer de lui donner un cadre.
Alors je ne sais pas si on peut employer le mot de fiction concernant votre écriture, Miguel Bonnefoy, parce que depuis déjà pas mal de temps, vous avez déjà publié 3 romans, il y a aussi une façon de restituer peut-être une réalité qui s'apparente à une légende. Peut-être est-ce depuis votre enfance que vous aimez les contes, que vous avez lu Stevenson, que vous avez peut-être lu plus tard Michel Tournier, qui lui-même a revisité les contes. Mais il y a notamment dans un de vos livres, qui est maintenant disponible en livre de poche, qui s'intitule Sucre noir, cette volonté d'aller à la recherche d'un trésor disparu.
Oui, tout à fait. J'aime beaucoup l'idée que vous me proposez de voir aussi les livres à travers l'angle du conte, de la fable, du mythe. Et il y a tout à fait ça. Je pense que d'un côté, bien sûr qu'il y a des lectures familiales. D'un autre côté, il y a sans doute un goût personnel. Et d'un autre, et aussi peut-être une sorte de reste culturel d'avoir grandi en Amérique latine, qui sont des endroits où il y a une tradition orale plus qu'une tradition écrite. Et lorsqu'on raconte une histoire, on finit par l'enjoliver, l'habiller comme une sirène ou comme une duchesse viennoise pour lui donner quelque chose d'éclatant ou quelque chose d'un petit peu plus fou. Et lorsqu'on lit Cien años de soledad, 100 ans de solitude de García Márquez, lui raconte qu'il n'a absolument rien inventé, qu'il n'a fait que copier la réalité, et ensuite il lui a donné ce je ne sais quoi de conte et de fable. Donc il y a sans doute ça. Et parfois, il est plus simple de dire certaines choses en passant par le conte et par la fable que directement. Et c'est là alors où je me suis un peu mis dans cette lignée des conteurs.
Eh bien évidemment, on pense à Gabriel García Márquez quand on vous lit, même si vous êtes extrêmement jeune. Alors justement, nous avons retrouvé une archive de Gabriel García Márquez qui va parler de l'écriture de fiction. C'est un extrait d'un film qui s'intitule « L'écriture sorcière » de Mauricio Martinez Cavard. Et c'était pour France 3, un siècle d'écrivains, date de l'INA, 1998, Gabriel García Márquez.
La escritura de fiction es un acto hipnótico.
Écrire de la fiction est un acte d'hypnose.
Trata de hipnotizar al lector para que no piense sino en el
On cherche à hypnotiser le lecteur pour qu'il ne pense pas à l'histoire qu'on lui raconte.
De clavos y tornillos y bisagras.
Il faut une énorme quantité de clous, de vis et de charnières pour qu'il ne se réveille pas. C'est ce que j'appelle la menuiserie, la technique de narration dans un livre comme dans un film. L'inspiration est une chose, le récit en est une autre. Raconter une histoire et la convertir en une réalité littéraire qui captive vraiment le lecteur est impossible sans ce travail de menuiserie. Captiver le lecteur, c'est lui communiquer un rythme respiratoire qui ne doit pas se rompre sous peine qu'il se réveille. Lorsque j'atteins ce rythme dans l'écriture et que je tombe soudain sur une phrase boiteuse au niveau rythmique, j'ajoute un adjectif ou deux pour ne pas casser le rythme, même s'ils n'ont pas lieu d'être là. Ils sont là pour que le lecteur ne se réveille pas. C'est ça la menuiserie.
La menuiserie de Gabriel García Márquez qui nous a emmenés depuis des décennies dans des enchantements de lecture. Mais on peut parler de ce terme de menuiserie qu'il réhabilite magnifiquement en ce qui concerne votre écriture, parce que vos livres sont amples, à la fois sur le nombre d'années concernées, ils sont amples aussi par la multiplication des personnages, ils sont amples par les enjeux et les situations que vous créez, et pourtant, je dois vous le dire, d'ailleurs vos livres marchent très bien, on s'en rend pas compte, nous les lecteurs. Vous nous embarquez. Alors je sais pas si vous êtes un très bon menuisier.
Oui, sans doute, sans doute. Et j'aime beaucoup ce croisement justement que fait Gabriel García Márquez entre quelque part l'artiste et l'artisan. Et peut-être dans le concept platonicien de poiesis, il y était déjà cette idée de faire, de fabriquer, de créer. D'un côté, il y a bien sûr le souffle, l'élan. Moi, j'avais envie de raconter un siècle d'histoire avec énormément de personnages, avec des guerres mondiales, avec une dictature, etc. Et d'un autre côté, il y avait aussi l'artisan qui essayait de mettre tout ça dans une sorte de charpente et dans un échafaudage. Lui utilise l'idée des vis du marteau de la scie et ça me plaît énormément parce que tout étant une affaire de dosage, il s'agit en effet... Lui parle de ne pas réveiller le lecteur ou peut-être de ne pas l'endormir. Mais il y a cette belle idée de lorsque tu commences une page, lorsque tu commences l'incipit, la première phrase, la deuxième phrase, le lecteur a une tasse à la main suspendue et tout le travail de l'écrivain est de l'empêcher qu'il pose la tasse et que le café finisse par refroidir dans sa main tellement il est absorbé dedans. Et ça, ça se fait sans doute avec l'inspiration, le travail de l'élan narratif, mais aussi essentiellement des astuces et des ruses au niveau de l'écriture. Chacun, bien sûr, a les siennes. Moi, de mon côté, j'ai énormément travaillé pour ne pas casser ce rythme délicat, cette petite musique, cet aloi, non? Lorsque la pièce tombe par terre, elle crée un sentiment, c'est cet aloi. C'est cette petite musique qui doit rester pendant tout le livre jusqu'à la fin. Et à l'instant où tu trébuches, à l'instant où tu romps le rythme, à l'instant où tu romps le pacte que vous êtes dévolu entre le lecteur et toi, alors le lecteur le voit, et tout à coup c'est le château de cartes entier qui s'effondre. C'est comme si tout le livre, tout à coup, perdait sa force. Et c'est sans doute très difficile soi-même d'en juger. Ce sont les autres lecteurs qui finissent par le voir mieux que soi-même. Nous, on propose tout simplement, comme disait Giono, une petite tour de pierre. Et à côté, il y a une lumière qui crée une ombre. Mais nous, on est tout simplement concentrés dans cette tour de pierre. Et cette ombre est le roman, et la profondeur du livre, et son épaisseur. Mais elle n'a rien à voir avec nous. Elle est tout simplement un jeu de lumière que le lecteur, lui, peut découvrir. Notre travail est celui de faire en sorte qu'aucune pierre ne tombe de cette tour.
Mais c'est drôle ce que vous dites, Miguel Bonnefoy, parce que quand on vous lit, non seulement on part dans une histoire, mais on a l'impression que c'est l'histoire qui nous saisit. Mais en fait, c'est la musicalité du texte et la construction narrative qui fait que on part, on s'en va. Il y a la notion d'aventure, peut-être pas seulement aventure des personnages, mais peut-être aventure narrative. Comment possédez-vous à ce point la profondeur du français qui n'est pas votre langue maternelle?
Bon, merci beaucoup pour ce complément. Merci aussi pour le mot aventure, non, qui étymologiquement veut dire ce qui doit arriver. Donc quelque part, lorsqu'on est en train de lire un livre, on se sent dans une aventure, on a l'impression de c'est ce qui doit arriver à l'intérieur du livre. Et le lecteur n'est pas en train de découvrir quelque chose, il est en train de confirmer ce qu'il avait peut-être dans son cœur. Et là alors, tu touches une corde qui fait écho à l'intérieur de lui. Et ça, c'est une chance immense. Et j'utilise peut-être le mot chance parce que j'ai parfois l'impression que l'écrivain, ou du moins de mon côté, n'a un peu rien à voir dans cette magie. Et je le dis vraiment sans aucune fausse humilité.
Il est un instrument.
Il est un peu un instrument.
Il se laisse guider.
Exactement. C'est-à-dire qu'à aucun moment, moi, je n'ai l'impression, en travaillant mon texte, et vraiment, je travaille énormément. C'est-à-dire j'ai plus de capacité de travail que réellement de talent ou de force dans le coup d'épée. Ce sont des coups d'épée dans l'eau. Mais c'est essentiellement du travail. Et en travaillant, je me dis à quel moment est-ce que je vais casser quelque chose qui va faire que le lecteur va sortir de l'histoire, va perdre la couleur, va perdre le parfum, va perdre cette odeur. Et là, alors, tu as absolument tout perdu, même si ton histoire est excellente. Ce n'est pas une affaire de rebondissement, ce n'est pas une affaire de retournement, ce n'est pas juste une affaire de caler des scènes les unes après les autres en faisant un système de béquilles pour être sûr de ne pas ennuyer le lecteur, de bien soigner ses transitions. C'est une affaire de parfum, de ton, de musique. C'est des sens, de la sensualité. Et si on parfume...
Ça, les parfums, ils sont présents chez vous, dans votre écriture. Vive l'écorce de citron. Oui. Les bains à l'écorce de citron. Mais pas seulement.
Tout à fait, tout à fait.
Pas seulement.
Il y a les parfums, il y a les sens, il y a toutes ces choses qui permettent d'injecter, de composer cet effet de réel dont parlait Roland Barthes, qui donne l'impression d'y être. Et lorsque tu mets le doigt comme ça sur la page, ce n'est pas le grain du papier que tu touches, mais la peau des personnages.
Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez le choix musical de Miguel Bonnefoy pour notre plus grand bonheur, Chili González. Thank you.
première leçon de Proust, c'est pour les écrivains de poser une sorte d'alternative radicale, et je dirais presque chirurgicale, entre écrire d'une part et tout le reste d'autre part. La seconde leçon, si vous voulez, à mon sens, c'est que pour Proust, la seule raison d'écrire, c'est le bonheur. La décision d'écrire de Proust, c'est une décision qui correspond exactement avec la métamorphose d'une vie somme toute malheureuse et inutile dans une vie heureuse. Écrire, c'est être heureux pour Proust. Et ça, je crois que c'est très important, et je dirais presque que c'est extrêmement moderne, c'est peut-être même d'avant-garde en un sens, parce que depuis 20 ans, nous avons été habitués à une sorte de sentiment un peu dolosif, un peu malheureux, un peu tourmenté par un excès de responsabilité de l'écriture. Alors que pour Proust, écrire, c'est essentiellement être heureux, et c'est vouloir être heureux. Et alors la troisième leçon, c'est que cette écriture, toute écriture, est une sorte de retour aux profondeurs de l'être. C'est véritablement une anamnèse, comme on dit, et cette anamnèse se fait au fond par comparaison, c'est-à-dire par comparaison d'événements, de caractères, de notations, c'est-à-dire qu'au fond, pour Proust, écrire, c'est essentiellement dégager des essences et se convertir à un essentiel qui ne surgit que par comparaison.
Nous venons d'entendre la voix de Roland Barthes, c'est une archivina du 1er décembre 1963, c'était au micro de Robert Valette. Alors j'ai envie de vous poser la question à vous, Miguel Bonnefoy, pourquoi écrivez-vous ?
Belle question. Et aujourd'hui, sans doute, parce que je pense qu'avec un seul livre, je n'arriverai pas à dire ce que j'ai envie de dire. Je pense qu'avec un seul livre, je n'arriverai pas non plus à faire le tour de la complexité ou de la psychologie de certains personnages que j'ai envie de revisiter ici et là. Et donc, si je continue à écrire, eh bien, c'est pour essayer justement d'être toute la pulpe qui va entourer le noyau de mes prochaines années et essayer justement de composer un ensemble qui puisse être cohérent. Et je crois beaucoup à cette idée que finalement l'écriture non pas écrit la vie comme la vie l'écrit ou l'homme façonne son milieu autant que le milieu le façonne et qu'il y a une porosité entre les deux, mais surtout qu'on peut créer une sorte de troisième monde dans lequel on peut composer des choses dans lesquelles des personnages peuvent vivre avec nous et leur donner suffisamment de chair et suffisamment de vie pour qu'ils finissent par t'enseigner eux des choses que tu ignores. Peut-être j'écris alors pour dédouaner des apprentissages et qu'on m'enseigne quelque chose de nouveau.
Et pourtant, Miguel Bonnefoy, le premier livre que vous avez écrit, qui est disponible en livre de poche, qui s'intitule « Le voyage d'Octavio », met en scène les pérégrinations d'un analphabète vénézuélien qui va se promener à travers tout le pays et qui un jour va rencontrer une femme dont il va tomber éperdument amoureux, qui s'appelle Venezuela, et cette femme, par amour, va lui transmettre l'écriture. Et la question qu'on se pose, nous, lectrices et lecteurs, de ce livre assez fantastique, c'est de savoir si finalement, le fait de pouvoir lire, de savoir lire, puisque elle va lui apprendre, Venezuela, à lire, va lui donner un goût du bonheur, ou pas ?
Oui, le goût du bonheur et également le fait de pouvoir décrire sa propre vie. Et en décrivant sa propre vie, eh bien, il n'a plus l'ignorance de qui il est réellement, de son essence, de son cœur véritable. Je voulais aussi parler du Venezuela, parler de Caracas, ne pas faire le portrait classique avec un Venezuela qui est dangereux, qui est agressif, dans lequel il y a une crise économique, dans lequel on parle sans cesse soit des Miss Monde, soit des plages, ou soit en effet de la crise pétrolière, mais au contraire essayer de donner quelques fleurs, essayer justement de parler de la rose plutôt que de l'épine, de parler de la lumière plutôt que de l'ombre, essayer de voir si je pouvais justement donner une autre vision du Venezuela et souligner les aspects qui soient puissants, qui soient forts. Mais pour ça, Si je me mettais à faire une sorte de guide touristique du côté beau du Venezuela, eh bien je tomberais dans une écriture pamphlétaire. Alors je me suis dit qu'il y avait une sorte de mise en abîme à créer avec le personnage qui lui-même, à l'aube, au seuil du livre, est un alphabète, ne sait ni lire ni écrire. Et petit à petit, lorsqu'on va lui apprendre à lire et écrire, il pourra lui aussi lire et écrire le monde dans lequel il habite, renommer le monde depuis les débuts, et donc donner une sorte de portrait du pays à travers lui-même. Si j'arrivais à créer justement ce jeu entre le personnage, ce géant débonnaire Octavio, et le pays, alors il y avait là un jeu de danse, comme ça, de chorégraphique au niveau narratif qui pouvait se créer. Et donc finir le livre aussi avec un aspect traditionnel vénézuélien pour créer une boucle parfaite. Mais également, l'affaire était celle de semer quelques personnages depuis le début. Et donc j'ai semé le personnage de Bracamonte dans Octavio, comme j'ai semé le personnage de Venezuela, que on retrouve dans Héritage, qu'on retrouve également...
Vous n'allez pas me dire que c'est un livre testament alors que vous avez 32 ans.
Non, pas du tout, pas du tout. Au contraire, je suis au tout début, je suis au seuil, je n'ai rien à écrire.
Mais c'est vrai que vous construisez des personnages et qui se retrouvent à chacun de vos livres.
Absolument.
Mais j'en ai pas terminé avec Octavio, parce qu'à partir du moment où Octavio apprend à lire, à écrire et à comprendre le monde, à partir du moment où il comprend la signification de la première phrase qu'il arrive à déchiffrer, eh bien, il cesse de s'entailler sa main.
Oui.
Pourquoi ?
Eh bien, il s'entaillait la main autrefois par honte. Parce que s'il était dans la rue et on lui demandait d'écrire quelque chose sur un papier, au lieu de dire à la personne qu'il ne savait ni lire ni écrire, il montrait sa main qui était entaillée, qui était blessée avec un bandage en disant « Je suis désolé, je me suis blessé la main, peut-être pourriez-vous m'aider ?» qui est exactement la même astuce que peuvent utiliser certaines personnes lorsque ils te demandent dans le métro « Pouvez-vous me lire les stations, etc. J'ai pas pris mes lunettes avec moi. » Et moi, c'est quelque chose que j'avais vu au Venezuela, parce que pendant un moment, j'avais travaillé pour une mission qui s'appelait la mission Robinson, qui était une mission d'alphabétisation du pays, et j'avais vu dans ces salles, des femmes qui peut-être avaient 85 ans, qui n'avaient jamais su lire un seul mot, et qui pour la première fois apprenaient à écrire le mot « maman »,« mama », »,« M-A-M-A ». Et ils disaient « Mais comment c'est possible ? Quatre lettres pour un personnage aussi important ? Moi je suis mère, je suis grand-mère, je suis arrière-grand-mère, toute ma vie j'ai entendu le mot « maman », et jamais je n'aurais imaginé que c'était juste quatre lettres dont deux se répètent. » C'est quelque chose de ridicule alors que le personnage est immense. Et j'avais trouvé ça tellement beau que je m'étais dit qu'il y avait là une sorte aussi d'hommage, de clin d'œil à faire. Et donc j'avais pris le personnage d'Octavio qui lui ressemblait un peu à toutes ces personnes que j'avais rencontrées pendant les missions de Robinson.
Vous avez parlé de votre père tout à l'heure. Vous avez parlé de ce qu'il avait subi dans son propre pays et du fait qu'il a été obligé de le quitter pour être accueilli en France. Je vous propose d'écouter un document très émouvant, c'est Salvador Allende qui va s'adresser pour la dernière fois par la radio au peuple chilien. C'est une archive INA, Interactualité, du 11 septembre 1973.
Mardi 11 septembre 1973, du palais de la Moneda assiégé, Salvador Allende s'adresse pour la dernière fois par radio au peuple chilien.
Pagaré con mi vida la lealtad del pueblo y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales.
Placé dans un moment historique, je paierai de ma vie la loyauté du peuple et je leur affirme que la semence que nous avons déposée devant la conscience digne de milliers et de milliers de Chiliens ne pourra être définitivement étouffée. Ils détiennent la force, ils pourront asservir, mais ils ne peuvent pas transformer la société par le crime et par la force. L'histoire est à nous et les peuples la font eux-mêmes.
Et vous, Miguel Bonnefoy, dans le dernier tiers de ce livre Héritage, vous écrivez ceci. Depuis une heure, une junte militaire bombardait la Plata de la Constitución et on sut plus tard que le président Salvador Allende, enfermé dans son palais présidentiel avec une arme offerte par Fidel Castro, s'était suicidé alors que le cuivre de sa voix résonnait encore dans les radios. on raconta que des officiers putschistes firent la queue devant son cadavre et lui tirèrent une balle dans le corps, un par un, comme une cérémonie macabre, et que le dernier lui défigura le visage à la crosse de son fusil. Avec la crosse de son fusil.
Oui, absolument. C'est sans doute une des pages les plus noires de l'histoire chilienne, ce 11 septembre 73, dans lequel le président du peuple élu, 3 ans avant, qui avait constitué avec son gouvernement la Unidad Popular, se retrouve en effet bombardé par les avions de Pinochet. Et à partir de là, commence presque 17 ans de dictature. Et cette scène, elle a été bien sûr 1000 fois racontée ici et là, mais il y a un très beau livre de justement de García Márquez, puisqu'on revient à lui, c'est marrant, qui s'appelle L'Aventura Clandestina de Miguel Littín, dans lequel il parle justement d'un clandestin chilien qui part du Chili à ce moment-là, après el golpe et après le putsch, et justement raconte cette scène, puisque d'ailleurs García Márquez était très ami avec Fidel Castro, et il savait que c'était Fidel Castro qui lui avait offert le fusil, et puis il y avait ensuite eu cette longue file. Donc encore une fois, on revient à la réalité et la fiction. C'est-à-dire que moi, j'ai lu cette scène de la plume d'un écrivain qui, lui, encore une fois, a dû, bien sûr, l'entendre peut-être de la voix de Fidel Castro ou de Miguel Littín ou de certaines personnes, des témoignages, mais plus il y a des personnes qui se succèdent, plus bien sûr ça peut se déformer, et finalement, résultat des courses, c'est la légende qu'on imprime, et peut-être pas la réalité.
Et donc, votre père vous en a parlé ?
Alors, mon père, bien entendu, lui, avait 17 ans à ce moment-là, il faisait partie des mouvements d'extrême-gauche révolutionnaire, El MIR, Movimiento Izquierda Revolucionario, il a été arrêté en septembre 73, donc vraiment juste après le putsch, sans doute... quelqu'un a parlé sous la torture dans un autre centre de torture et a donné son adresse, ce qui a fait qu'ils sont venus le chercher avec son frère, avec un ami, et puis il a été enfermé dans ce centre de torture, envoyé ensuite en prison et puis après en exil politique en France. En arrivant, il n'arrive pas précisément en France, il arrive plus précisément à Barcelone, et à Barcelone, il écrit ce témoignage, Relato en el Frente Chileno, qu'il publie avec un pseudonyme, Hilario Da. Et donc, ça a été un document essentiel pour moi pour pouvoir constituer ce dernier tiers du livre.
Que reste-t-il de cette mémoire qui a été arrachée à l'oubli par vous, par votre père, puisqu'il est aussi écrivain ? Est-ce qu'il y a le désir de restitution de la vérité dans un pays qui cherche à oublier maintenant ? Ou est-ce qu'il y a toujours cette force de résistance qui d'ailleurs habite la plupart de vos personnages ?
Tout à fait. Il y a sans doute les deux. Il y a d'un côté une vraie révolte, une vraie résistance et une vraie envie, un désir ardent de changer les choses, au point qu'on est en train de réécrire la constitution en ce moment au Chili, qui était une vieille constitution néolibérale héritière de Pinochet, et énormément de mouvements essayent justement de pouvoir changer en faisant des changements structurels profonds au Chili. Et d'un autre côté, bien entendu, il y a les artistes, il y a les écrivains, il y a les fils des torturés politiques qui essayent comme ils peuvent de maintenir une sorte de mémoire vivante, d'avoir un devoir de mémoire pour empêcher que ça se refasse, mais aussi également pour pouvoir continuer à constituer ce patrimoine du XXe siècle qui est à la fois dans ses affres et dans ses grandeurs, dans ses petitesses et dans ses bonheurs. J'ai essayé, comme j'ai pu, de récupérer non seulement les informations que mon père, qui est un homme très généreux, m'avait données, également avec son livre, également avec énormément de témoignages qui ont été publiés ici et là, et beaucoup d'amis de la famille qu'on connaît, qui ont été assis à notre table et qui chacun a une histoire, qui m'a permis justement de constituer ce personnage d'Hilario Da, qui est à la fois mon père, mais à la fois aussi, comme Octavio, rassemble dans une sorte de grand cocktail toutes les voix que j'ai pu entendre ici et là dans mon enfance. Donc, quelque part, c'était un livre important pour moi parce que ça me permettait de libérer aussi une histoire que j'avais à l'intérieur, mais tout en faisant du roman. Et sans chercher, en effet, à m'approprier rien du tout.
Impossible de ne pas parler de l'importance des femmes à l'intérieur de votre écriture, Miguel Bonnefoy. Dans tous vos livres, et plus particulièrement dans celui-ci, Héritage, le lecteur va vous quitter avec ce personnage de Margot qui va traverser des décennies, qui est de l'incarnation de la résistance, y compris quand le pays se retrouve sous une dictature. C'est elle qui va trouver la force, c'est elle qui va vouloir essayer de comprendre et c'est elle qui va résister. Pourquoi ?
Et je voulais.
Et qui sera toujours aux avant-gardes.
Absolument. C'était un personnage important pour moi parce que il permettait justement de relever un peu des générations qui se succédaient très masculines. Et donc, je voulais donner une force à cette troisième génération qui est celle de l'aviatrice. Le personnage lui-même de l'aviatrice qui est inspiré de Margot Duhalde, qui a été véritablement une aviatrice franco-chilienne qui a combattu pendant la Deuxième Guerre mondiale et qui ensuite a été un personnage public important au Chili, m'intéresse moins, dans le sens où, en plus, si vous voulez tout savoir pour la petite histoire, il semblerait qu'elle était plutôt pinochetiste. Donc je me suis peu intéressé à ce personnage, mais c'est plutôt sa figure, c'est-à-dire tout ce qui a entouré sa légende, sa mythologie autour, la force et le rebond qu'elle a fait avec son nom, et dont j'ai voulu tirer profit pour constituer le portrait de ce personnage de Margot Lonsonnier, qui elle justement a quelque chose de fort, d'inspirant, de puissant, de participatif, et qui ressemble bien sûr aux femmes de ma famille. J'essaye comme je peux d'accompagner un mouvement qui me semble absolument évident, fondamental et capital, qui est celui de l'émancipation de la femme.
Ben merci beaucoup, Miguel Bonnefoy. Je n'ai pas le temps de vous poser la vraie question, celle qui découle de votre écriture. Le diable existe-t-il ?
Ça, c'est beau, ça.
Ben, il faudra lire et Miguel Bonnefoy. Ben merci beaucoup. Miguel, je rappelle que vos livres sont disponibles en poche et que le dernier, qui s'intitule « Héritage », est paru aux éditions Rivage et qu'il vient d'obtenir le prix des libraires. Et bonne vie et longue vie à Berlin.
Merci beaucoup, merci beaucoup.
J'étais reposé ces fleurs de printemps. Endeuillé d'espèces au vent. Jardinière pressée, les yeux noyés, comme je les hais. Ces murs épais sont mes pas, à six pieds sous terre.
Vous avez sans doute reconnu la voix de Jane Birkin, avec ce titre qui s'intitule « Ces murs épais » de son dernier album. Merci à Benjamin Troncin qui était à la technique ce soir. Merci à Jean-Baptiste Audibert pour ses conseils musicaux. Merci à Céline Villegas, Élodie Royer, Louise Tempero et bien sûr à Lilian Allôme qui, comme chaque soir, a réalisé cette émission.